Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous aimez le sport, ces petites et ces grandes histoires. Ne bougez pas, vous êtes encore servis ce soir avec bien sûr beaucoup de football, le coup d'envoi des groupes de Ligue des Champions en Afrique, le tirage au sort de l'Euro 2020 et les derniers échos de Première Ligue. Nous ferons le tour de la planète ballon rond. Au programme aussi le début du mondial féminin de handball. Faux départ pour l'équipe de France et pour les trois sélections africaines. Nous prendrons des nouvelles des Sénégalaises. Et puis la Russie sera-t-elle aux prochains Jeux Olympiques ? Pour l'instant, c'est niet. L'agence mondiale antidopage devrait sortir le carton rouge le 9 décembre prochain. Comment cette situation est-elle accueillie sur place ? Éclairage à venir de l'œil de Moscou. Jean Didier revoit Mondial Sport. C'est parti. Et j'accueille tout de suite dans ce studio Antoine Grenier pour parler du football africain. Le football africain, c'est la Ligue des Champions et sa première journée de phase de groupe. Conclusion ce soir avec un tout puissant Mazembe qui ne fait pas ses 80 ans.
Et non, le club de Lubumbashi referme en beauté les célébrations de son anniversaire, Thomas, après le match de gala. La victoire de prestige en Ligue des Champions sur un autre quintuple vainqueur, le Zamalek du Caire. Mazembe vainqueur 3-0 grâce à la jeunesse de Jackson Moulet, auteur d'un doublé, et l'expérience de Trésor Mputu, auteur du deuxième but. Mais l'homme du match, c'est clairement Patou Kabangou, triple passeur décisif dans ce match. Souvent remplaçant, Kabangou, un des doyens des corbeaux, montre qu'à 34 ans, mais il est encore important.
C'est compliqué, des matchs pareils, il faut être gans dans la tête aussi. Donc je voyais déjà des failles des adversaires. Ils savaient que quand je vais rentrer, je vais faire mieux aussi. Je regarde souvent Petit Mouleka, et puis Trésor, il était là. Parce que nous trois là, techniquement, on est un peu bon, on peut aller de l'avant. Et puis j'ai fait un contrôle, puis j'ai senti directement, le petit, il était là, il a marqué.
Est-ce une manière de signaler que vous êtes de retour?
Ouais, bien sûr, il y a toujours des niveaux. Malgré tout, quand tu prends l'âge aussi, il y a l'expérience aussi, tu vois. C'est les présents qui comptent. Donc on va pousser cette année, pourquoi pas, gagner des Ligues des Champions, on va les laisser.
Patou Kabangou au micro de Pascal Mwangala.
Le tout-puissant Mazembe qui est ce soir seul en tête de son groupe A.
Parce que dans ce même groupe, les Zambiens de Zesco United sont allés chercher le nul, un partout sur la pelouse des Angolais du Primeiro de Agosto. Dans la poule C, l'USM Alger, le Wydad Casablanca se quittent dos à dos, un partout entre les Usmistes et les finalistes de la dernière Ligue des Champions. Les Algérois avaient ouvert la marque dès la 5e minute par Zouari, mais ils se sont fait rejoindre à la 89e, égalisation de Badi Aouk. Bilal Diri, l'entraîneur de l'USMA, considère malgré tout que c'est un bon point pris à domicile.
Chaque club veut marquer le début de deux mois, c'est tout à fait normal. Après le but, c'est vrai, on a subi un peu, ils ont gardé bien le ballon. Mais après, en deuxième temps, on voulait même ajouter le deuxième but avec des comptes. On sait que Wydad, ils vont monter d'un cran. Pour y aller, on va en deuxième temps pour aller sur le compte. On n'a pas marqué, mais c'est ça, on a pris un point avec le WAC. Maintenant, on pense le prochain match.
Bilal Diri, l'entraîneur de l'USM Alger, au micro de Safir Jalal. Les deux derniers matchs de la soirée, Raja Casablanca contre Espérance de Tunis, vainqueur sur tapis vert de la précédente édition. L'Espérance n'aura mis qu'un quart d'heure à tuer le suspense dans son premier match. Il n'a fallu que 8 minutes avant qu'Anis Badri, sur un enchaînement contrôle demi-volée, n'ouvre le score, avant qu'Ibrahima Ouattara ne double la mise d'une madjère à la 15e minute. 2-0, ce sera le score final et ça permet aux espérantistes de prendre la première place de leur groupe D devant la JSK, pas plus d'incertitude enfin dans la poule C. Entre les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns et les Angolais du Petro de Luanda, les Sud-Africains, large vainqueur, 3-0.
Demain dimanche, Antoine, place à l'autre Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération, avec 4 petits nouveaux, parmi lesquels les Égyptiens du Pyramids FC.
Et le club d'Assiout passé par 3 tours de qualification pour accéder à cette phase de groupe. Succès sur l'Étoile du Congo, Belouizdad et enfin les Tanzaniens de Young Africans, versés dans le groupe des Mauritaniens du FC Nouadhibou, qui vont découvrir la Coupe d'Afrique aussi. D'autres Égyptiens, ceux d'Al-Masri et des Nigérians des Nougou Rangers. Mais les joueurs de Pyramids FC se veulent ambitieux, à l'image de leur entraîneur également, Sébastien De Sabre, arrivé en Égypte après la CAN 2019, le Français reste pour l'instant sur un parcours quasi sans faute. Depuis juillet, une seule défaite contre le Zamalek du Caire en Coupe d'Afrique. De quoi lui permettre un peu d'optimisme au moment de commencer cette campagne continentale.
On est dans l'esprit d'une équipe qui démarre une nouvelle compétition dans la compétition, parce que les group stage, c'est 6 matchs en mini-championnat. C'est vrai qu'on commence à l'extérieur au Nigeria, qui n'est jamais un déplacement facile. On sait qu'il va nous falloir 10 points pour se qualifier, peut-être 9. Voilà, on est dans l'obligation de prendre des points à l'extérieur et de gagner chez nous. On a les qualités pour faire un bon parcours, je pense, même si c'est toujours difficile de se déplacer au Nigeria. C'est un mini championnat, donc quel que soit le résultat, il restera des matchs derrière. Voilà, on va s'appuyer sur notre expérience des 3 derniers matchs à l'extérieur en Coupe d'Afrique, puisqu'on a gagné 3 fois à l'extérieur, au Congo, en Algérie et en Tanzanie. Donc on espère faire la même chose dimanche, même si on sait que ça va être un match très difficile.
Comment s'est passée votre préparation? Qu'est-ce que ça change, un match de Coupe de la Confédération par rapport à un match de championnat ou un match de Coupe d'Égypte?
On a joué mercredi en championnat à domicile. On a fait une contre-performance. On a fait un match nul 2-2 après 4 semaines d'arrêt de la Ligue. C'est toujours difficile, ces premiers matchs sans rythme. Donc, on est conscient de ce qui nous attend. Et après, ce qui va changer d'un match de championnat, moi, en tout cas, on joue tous les 3 jours, nous, entre la Coupe d'Égypte en ce moment, le championnat et la Coupe CAF. Donc, ça me donne aussi l'opportunité de pouvoir faire un turnover et de faire confiance à tous les garçons. C'est une autre approche parce qu'il y a le voyage. Mais sinon, les objectifs sur des gros clubs comme le nôtre sont toujours la même chose, c'est-à-dire de gagner tous les matchs. On sait qu'on est sous pression, mais voilà, quand on travaille dans ce genre de club, on l'accepte.
Vos débuts avec Pyramids FC sont plutôt très réussis, avec une seule défaite face aux Zamalek depuis votre arrivée après la CAN. Quels objectifs vous fixez dans cette Coupe de la Confédération? Jusqu'où vous voyez aller le Pyramids FC?
C'est la première fois effectivement que le club, depuis son rachat l'année dernière, fait une coupe intercontinentale. Donc l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. On sait qu'on a un bon effectif. Le plus gros souci pour nous, c'est de pouvoir gérer les 3 objectifs qu'on a, c'est-à-dire la Ligue, la Coupe d'Égypte et la Coupe CAF. Donc c'est vrai qu'on va enchaîner des matchs, beaucoup de matchs jusqu'au mois de fin janvier. Il va falloir bien gérer tout ça pour être performant, et notamment performant en CAF. Après, en termes de début, c'est vrai que c'est toujours intéressant pour un coach de gagner de nombreux matchs de suite, parce qu'il y a l'adhésion tactique, il y a la motivation aussi qui vient en plus. Voilà, là on est dans une période où, comme je le disais, on va enchaîner beaucoup de matchs, donc on se doit de continuer à faire de bons résultats. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On a joué 16 matchs, on a fait 11 victoires, 4 nuls et effectivement une défaite en finale de la coupe d'Égypte. Et c'était la première fois que le club allait à ce niveau-là, donc. Non, c'est un bon début, mais dans ces clubs, c'est uniquement les victoires qui comptent, et on ne regarde pas ce qu'on a fait avant. C'est le match qui vient, il faut toujours le gagner, donc tout peut changer du jour au lendemain. Donc on essaye d'être très concentré sur chaque match pour pouvoir gagner tous les matchs.
Sébastien Desabre, entraîneur de Pyramids FC.
Et mis à part le Pyramide de Sébastien Desabre, un autre club découvre donc cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, le FC Nouadhibou.
Une formation mauritanienne qui n'avait rien pu faire face au Wydad Casablanca en qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Reversée en tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, l'équipe de Nouakchott a donc réussi à se qualifier en dominant les Zimbabwéens de Triangle. À l'heure de faire ses grands débuts en Coupe d'Afrique face aux Égyptiens d'Al Masry, Abdoulaye Sileï Gueye, le capitaine du FC Nouadhibou, est tout simplement fier.
Un sentiment d'une fierté, une fierté d'avoir pu accéder aux phases de poule de Coupe CAF. C'est la première fois qu'un club mauritanien le fait. Donc, on va bien commencer demain avec c'est gagner le match contre Al Masry et se préparer pour les autres matchs à venir.
Abdoulaye Sileï Gueye, capitaine du FC Nouadhibou, au micro d'Abdou Salam Diagana. Dans le groupe B, 2 équipes ouest-africaines vont confronter leurs ambitions à la réalité. Le Djoliba de Bamako en déplacement pour affronter les Libyens d'Al Nasser et l'Euro Oroya de Conakry face aux Sud-Africains de Bidvest-Wits.
Le groupe C, lui, abrite le finaliste de la dernière édition.
La Renaissance Berkane, sortie très déçue de sa défaite face aux Zamalek, veut se relancer contre un autre débutant, la surprenante équipe béninoise de l'ESAE FC. Quant au Congolais du Daring Club Motema Pembe, ils accueillent accueille les Zambiens de Zanaco. Et puis dans la poule D, les Algériens du Paradou vont chausser les crampons pour la première fois en Coupe d'Afrique. Ce sera Abidjan contre le FC San Pedro. Côté ivoirien, après une qualification arrachée face à la Chanti Kotoko, le San Pedro est déterminé, à l'image de son capitaine Crépin Kouassi.
Moi, c'est un sentiment du joueur d'abord d'être qualifié pour les phases de poule. Voilà. Nous avons déjà fêté ça. C'est passé maintenant voilà, que nous rentrons en lice pour le premier match de la phase de poule. Moi et mes amis, nous sommes concentrés, vraiment motivés pour pouvoir faire un bon match ici. Faire un bon résultat et voyager pour aller au Nigeria avec un moral vraiment calme. Nous avons fait un stage en Tunisie début saison. Nous avons encore joué des matchs contre des équipes comme l'Étoile du Sahel. Donc sur ce point, nous sommes vraiment préparés, très bien préparés. Nous sommes prêts à toute éventualité. Nous sommes prêts à faire un bon match. Et c'est que nous avons fait un très très bon match et un bon résultat. C'est quand nous sommes soudés, nous sommes un, que ça nous permet d'avancer. Nous ne créons pas l'équipe algérienne. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. On a fait un très bon match. Moi, personnellement, j'ai versé mes potes pour y aller, mes gars. Nous avons venu sur le terrain, démontrer que nous méritons d'être là et puis nous méritons d'aller le plus loin possible.
Crépin Kouassi, capitaine du FC San Pedro, au micro d'Emmanuel Kofi. San Pedro Paradou, coup d'envoi 16h, temps universel.
Merci Antoine, on vous retrouve tout à l'heure pour parler handball et basket. En attendant, le football toujours, tirage au sort de l'Euro 2020. Il avait lieu ce samedi à Bucarest, en Roumanie, avec vous. On va en parler avec vous, Cédric de Oliveira. Bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Alors, même si quatre derniers billets doivent encore être attribués en mars après d'ultimes barrages, les cadors du continent sont fixés, notamment l'équipe de France, les champions du monde qui ont hérité d'un groupe particulièrement difficile.
Il s'y attendait un peu, Didier Deschamps. La France n'était pas tête de série pour ce tirage au sort. Elle était donc exposée à un tirage difficile. Ce sera donc l'Allemagne, vainqueur de la Coupe du Monde en 2014, le Portugal, tenant du titre qui avait justement battu les Bleus en finale lors du précédent Euro en 2016, et un troisième adversaire qui sera donc connu après les barrages. Bref, pas simple pour les Bleus malgré leur statut de champion du monde. Didier Deschamps a bien conscience de la difficulté de l'adversité, mais pour lui, ce sera dur pour tout le monde.
Difficile, oui, mais je pense que Joachim Löw et le sélectionneur du Portugal pensent la même chose. Voilà, c'est le groupe le plus difficile, mais on doit l'accepter, c'est comme ça, donc évidemment... ça demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite, puisqu'on a notre premier match qui est contre l'Allemagne à Munich, qui a cet avantage aussi de jouer à domicile. Donc forcément, un groupe compliqué sur le papier, de par la qualité de ces deux adversaires et les récents résultats qu'ils ont eus sur le plan européen et mondial.
Didier Deschamps et son staff qui l'ont confirmé, leur camp de base sera à Clairefontaine et ils débuteront ensuite, vous l'avez compris, face à l'Allemagne à Munich le 16 juin, puis ils se rendront à Budapest en Hongrie pour y affronter un barragiste le 20 et le Portugal le 24, puisque vous le savez Thomas, cet Euro se dispute dans 12 villes différentes cette année.
Et le match d'ouverture, il aura lieu à Rome le 12 juin.
Il opposera l'Italie à la Turquie dans un groupe A particulièrement ouvert avec également la Suisse et le Pays de Galles. En revanche, ça semble plus simple pour la Belgique, l'un des favoris qui a hérité de la Russie, du Danemark et de la Finlande. Pas de souci non plus, a priori, pour les Pays-Bas qui affronteront l'Ukraine, l'Autriche et un fameux barragiste.
Les Pays-Bas qui joueront à domicile à Amsterdam, tout comme l'Angleterre qui disputera ses trois rencontres de groupe à Wembley.
Les Three Lions qui seront dans le groupe D avec la République tchèque, un barragiste et la Croatie, retrouvaille donc avec ceux qui les avaient battus en demi-finale du dernier mondial. Forcément, le duel est très attendu. Mais pour le sélectionneur Gareth Southgate, hors de question de se focaliser uniquement sur ce match.
Nous devons bien jouer, c'est tout. Ça ne change rien d'être à domicile si vous êtes mauvais. Bien sûr, c'est fantastique pour nous d'avoir des matchs à la maison et d'affronter une nation comme la Croatie. Ce sera un grand événement pour tous nos supporters. Mais notre premier objectif, c'est de sortir du groupe. Et c'est une stratégie sur trois matchs, pas sur un seul.
L'Angleterre-Croatie, ce sera le premier match pour Gareth Southgate et ses joueurs. Et puis, il y a un dernier groupe dont on n'a pas encore parlé. L'Espagne jouera, elle, ses trois matchs à domicile à San Mamés, à Bilbao, face à la Pologne, la Suède et un barragiste. Ces barrages qui se tiendront donc fin mars. Quatre tournois rassemblant quatre équipes et les vainqueurs auront le droit d'aller à l'Euro.
Merci Cédric, bonne soirée. On file nous à l'anglaise. London is calling. Philippe Pauclair est en ligne de Londres. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à vous.
Plein de choses à décrypter avec vous ce soir. On évoquera bien sûr l'éviction d'Unai Emery. Mais d'abord, ce qui s'est passé cet après-midi sur les pelouses de Premier League. 14e journée, 13e victoire pour Liverpool. 2-1 contre Brighton. C'était ric-rac, mais voilà, ça passe encore pour Jürgen Klopp et ses Reds.
Ça devient un petit peu le leitmotiv, je dirais, de la saison de Liverpool. Et ça peut paraître extraordinaire quand on voit qu'ils ont 40 points après 14 journées, qui est un total absolument phénoménal. Mais chaque fois, Liverpool doit bagarrer, doit cravacher pour obtenir ses 3 points. Ça a encore été le cas aujourd'hui. Alors qu'on pensait le match, in the pocket, on va dire, pour Liverpool, après le doublé de Van Dijk sur des services, comme par hasard, de Trent Alexander-Arnold. On se disait, bon, pour une fois, ça va se jouer tranquillement. Et puis non, encore une fois, il a fallu que Liverpool se bagarre jusqu'à la fin, cravache. C'est difficile de ne pas avoir l'impression que cette équipe de Liverpool est d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'elle roule sur la jante, mais en tout cas qu'il y a un petit peu moins d'air dans ses pneus que d'habitude. Et cela depuis le début de la saison. Mais à chaque fois que des questions leur sont posées, à chaque fois, la réponse est apportée. Aujourd'hui, ça a été dans la douleur. Mais encore une fois, c'est 3 points, un 2-1, un nouveau 2-1. Je perds d'ailleurs le compte pour le nombre de 2-1 de Liverpool cette saison. C'est tout à fait étonnant. Vu les résultats qu'il y a eu ailleurs en Première Ligue, ça leur suffit amplement pour lancer maintenant ce sprint du mois de décembre qui va être absolument infernal pour eux, puisqu'ils vont disputer, si je ne m'abuse, 10 matchs entre la prochaine journée de championnat et le 3 janvier, ce qui est absolument hallucinant.
Alors, vous l'aviez un petit peu esquissé, les résultats des autres grands d'Angleterre, deux contre-performances aujourd'hui pour le Big Five, City tenu en échec à Newcastle de partout, et Chelsea battu à domicile par West Ham 1-0. Vous étiez à Stamford Bridge, Philippe, pour voir des Blues, je dirais impuissants cet après-midi.
Oui, et manquant de tranchant à qui l'absence de Tammy Abraham, qui est un attaquant tellement mobile dans ses appels, mais également excellent dans la finition, on le sait, a fait beaucoup de mal. Frank Lampard avait décidé de titulariser Olivier Giroud, qui a paru vraiment très rusty, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire à court de compétition. On a vu une équipe de Chelsea qui n'avait pas son allant habituel, qui était plus lente dans les transitions, qui s'est créé de nombreuses occasions, notamment en première période, avec un Pulisic qui était par moments intenable. Mais, ils ne sont pas parvenus à gagner face à une équipe de West Ham, franchement transfigurée par rapport à sa performance du week-end dernier contre Tottenham, et qui, ma foi, fort logiquement, est reparti avec les 3 points. Ce n'est qu'un petit accro dans le parcours de Frank Lampard, mais un accro qui fait mal au niveau de la course pour le titre, car ils sont maintenant à 14 points de Liverpool.
Demain, Philippe, Arsenal jouera à Norwich. Les Gunners qui seront dirigés pour l'occasion par une ancienne gloire des années Wenger, Freddy Ljungberg, suédois, adjoint, si je dis pas de bêtises, d'Unai Emery jusque-là, jusqu'à l'éviction, officialisée hier du Basque. Un an et demi après son arrivée, Emery prend la porte. C'est pas vraiment une surprise au vu des derniers résultats d'Arsenal. La question qu'on se pose maintenant, c'est qui pour le remplacer, on va dire, sur le long terme?
Alors écoutez, sur le long terme, si l'on parle au-delà de la saison prochaine, pour l'instant, très difficile à dire. Mais par contre, il n'est pas impossible du tout que les dirigeants d'Arsenal décident de rester, de faire confiance à Freddy Ljungberg jusqu'à la fin de la saison. De faire en quelque sorte un peu ce que Manchester United avait fait avec Ole Gunnar Solskjaer, mais sans nécessairement prolonger le contrat du Suédois au-delà de cette saison. Pour l'instant, on semble parti sur cette possibilité-là. Il est vrai que les candidats qui sont disponibles en ce moment, bon, il y a Max Allegri, bien évidemment l'ancien coach de la Juve, mais qui apparemment n'est pas véritablement le profil que recherche le board d'Arsenal. Les candidats ne se pressent pas nécessairement au portillon, et la tendance serait en ce moment, je dis bien en ce moment, à ce que l'on fasse confiance à Freddy Ljungberg, avec à ses côtés sans doute Per Mertesacker, un autre ancien des Gunners, jusqu'à la fin de la saison pour ensuite, pour y voir un petit peu plus clair. Et parce que vous savez, cette équipe d'Arsenal, ça peut paraître invraisemblable quand on pense au début de saison avec Emery. Si jamais ils remportaient leur match à Norwich ce dimanche, ils se retrouveraient en fait en 5e position, ce qui paraît extraordinaire. Et donc Freddy Ljungberg a une vraie possibilité pour s'inscrire, si ce n'est dans la longue durée, au moins jusque pour les mois à venir et qui sait jusqu'à la fin de la saison.
Rapidement, Philippe, il y a une autre actualité ce soir qui concerne toute l'Europe et en particulier l'Angleterre. C'est le tirage au sort de l'Euro 2020 qui va offrir à la sélection de Gareth Southgate des retrouvailles, notamment avec les Croates, sa promesse.
Oui, absolument. Mais je pense pas que les Anglais vont nécessairement être trop, allez, on va dire, je pense pas qu'ils vont se faire trop de mouvements comparés, par exemple, au groupe de la France. Hein. Je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Il y a même la possibilité qu'ils se retrouvent face à l'Écosse, hein, si jamais l'Écosse pouvait parvenir à passer les barrages. Mais les retrouver avec la Croatie, oui, c'est à la fois la demi-finale du Mondial, c'est aussi, n'oubliez pas, la Croatie que l'Angleterre avait battue lors de la Nations League. Donc, un groupe qui paraît franchement largement à la portée des Anglais. Bon, ils seront les favoris de ce groupe et d'autant plus que vous savez qu'ils disputeront leurs 3 matchs à Wembley devant leur public. Donc tout cela, à mon avis, ça fait de cette équipe d'Angleterre l'un des grands favoris pour aller être dans la phase directement à élimination directe pour cet Euro 2020 et un tirage dont, en fait, bon, tous les Anglais ont tout à fait toutes les raisons d'être satisfaits.
Merci Philippe Auclair, bonne soirée à vous. À Londres, l'Espagne, le Real Madrid vainqueur de 1 à Alavés déloge provisoirement le Barça de la première place. Les Catalans joueront demain sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Chaude retrouvaille en perspective pour Antoine Griezmann. Nous vous en parlerons avec Pierre Chaperon. Elles remettent leur titre en jeu. Les handballeuses françaises, championnes du monde en titre, défendent leur couronne cette année au Japon. C'est plutôt mal parti aujourd'hui. Premier match, premier accro pour les joueuses d'Olivier Crumbles battues par la Corée du Sud 29-27. Début difficile, c'était plus attendu, Antoine Grenier, pour les 3 sélections africaines engagées.
Difficile, oui, mais chacun à sa manière. Hein. Il y a eu le très difficile avec la large défaite de la RDC, 26-16 contre la Suède. Ensuite, il y a le difficile qui aurait pu faire mieux, la défaite de l'Angola, 32-25 contre la Serbie, des championnes d'Afrique dominées d'entrée qui n'ont jamais trouvé la solution. Enfin, il y a le difficile, encourageant, ça c'est pour le Sénégal contre le Monténégro. Baptême du feu réussi pour les Sénégalaises malgré une défaite 25-29. Pas de quoi rougir puisque les Lyonnes menaient même d'un but à la mi-temps. Les Sénégalaises, seules africaines engagées demain dimanche face à la Roumanie à 9h, temps universel.
En basketball, Antoine, ce samedi, 2 équipes ont assuré leur place en Basket Africa League. Ce sera en mars prochain, les Algériens de GSP et les Camerounais des FAP.
Il leur fallait pour cela remporter leur demi-finale de l'Elite 16 dans la division Ouest et c'est ce qu'ils ont fait avec la réaction des Algériens battus par l'AS Police du Mali en phase de groupe en octobre dernier. Les pétroliers ont pris leur revanche au meilleur moment en s'imposant 76-61. Ils seront accompagnés en Basket Africa League par les Camerounais des FAP qui ont dominé 77-64 les Ivoiriens de l'ABC. Pour l'ailier de FAP Étienne Tamtong, c'est d'abord l'envie de gagner qui a contribué au succès de son équipe.
On a passé presque toute la nuit à penser à ce match parce que depuis le début de la compétition, on n'a pas joué à notre niveau. On voulait montrer au public camerounais qui se déplace pour venir nous soutenir de quoi on est vraiment capable.
Que représente pour FAP une qualification pour la Ligue africaine des champions?
Une aubaine, pas seulement pour FAP, mais pour le basketball camerounais, de montrer sur le plan africain de quoi on est vraiment capable. Le basket au camerounais amateur, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le Cameroun et pour tous les basketteurs.
Les lieux des FAP, Etienne Tamtong au micro de Joël Wadem. Demain dimanche, finale de cette division ouest de l'élite 16 à Yaoundé, GSP contre FAP. Et le dernier ticket pour la Basketball Africa League en mars reviendra au vainqueur de la rencontre à Police ABC.
La Russie participera-t-elle aux prochains Jeux Olympiques? Énième épisode de l'interminable scandale de dopage qui ébranle le sport russe. L'Agence mondiale antidopage doit rendre le 9 décembre une décision très attendue. Pour l'instant, c'est niet. En tout cas, le comité de révision de la conformité, un des organes de l'AMA, recommande l'exclusion de la Russie accusée d'avoir manipulé des données du laboratoire antidopage de Moscou pour camoufler les résultats de certains tests. Pour évoquer ce sujet avec nous ce soir, l'un de nos correspondants à Moscou, Jean-Didier Revoin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour reprendre les choses dans l'ordre, on se souvient qu'en septembre dernier, l'Agence mondiale antidopage avait mis un terme à la suspension de la Roussada, l'agence russe antidopage. La première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Didier, c'est tout simplement comment on en arrive aujourd'hui à cette situation?
Eh bien, c'est relativement simple à comprendre. La Roussada avait été réadmise au sein de l'organe de contrôle mondial du dopage à la condition de lui fournir les données des athlètes contrôlés entre 2011 et 2015 et donc soupçonnés d'avoir eu recours à des produits dopants dans le cadre d'un système de dopage contrôlé par l'État russe. L'idée était de pouvoir comparer ces données, dites de contrôle, avec des échantillons récupérés précédemment par les enquêteurs de l'Agence mondiale antidopage. Alors, d'une part, la Russie a livré ces données hors délai et ensuite, des incohérences ont été constatées dans les données transmises, ce qui a poussé le comité de conformité de l'Agence mondiale antidopage à recommander l'exclusion de la Russie et de ses athlètes de toutes les compétitions majeures durant 4 ans, une recommandation sur laquelle le comité exécutif de l'agence se prononcera le 9 décembre.
On imagine, Jean-Didier, que cette recommandation a suscité de vives réactions en Russie. De quelle nature sont-elles précisément ?
Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, car pour une fois, les responsables russes ne parlent pas d'une seule et même voix. Des opinions divergentes ont en effet été exprimées, à commencer par Yuri Ganous, le responsable de l'agence russe antidopage. Il a été nommé en 2017 pour remettre de l'ordre dans cette institution gangrénée par le scandale, et il estime l'exclusion des athlètes russes comme inévitable, car il reconnaît que s'il y a des incohérences dans les données fournies par Moscou, alors juridiquement, l'Agence mondiale contre le dopage ne peut pas prendre d'autres décisions. Il dénonce par ailleurs les actions irresponsables et destructrices des autorités sportives, demandant à l'Agence mondiale antidopage de distinguer les activités de la Roussada et celles de forces extérieures à son agence, un avis qui est aux antipodes de celui du président du comité olympique russe.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre équipe soit à Tokyo sous le drapeau russe. Et pour cela, nous nous fondons sur des éléments objectifs. Notre comité olympique a effectué cette année un travail très important et de qualité sur le plan de la diplomatie internationale. Il a aussi contribué à créer une nouvelle culture contre le dopage dans le sport russe. Cela veut dire qu'avec un comportement responsable et assidu des sportifs envers leurs obligations professionnelles durant la période qui reste avant les Jeux, tous nos athlètes propres, ceux qui n'ont pas été suspectés ou convaincus de dopage, participeront aux Jeux Olympiques en tant que membres de notre équipe olympique.
Stanislav Pozniakov, le président du comité olympique russe, on le voit, Jean-Didier, le contraste est plutôt marqué. Mais qu'en disent officiellement, en tout cas, les autorités ?
Eh bien, le ministre russe des Sports, Pavel Kolobkov, se veut moins manichéen car il estime que l'exclusion est une option parmi d'autres, tandis que Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, est elle beaucoup plus tranchée.
Il est impossible de ne pas remarquer combien cette question du dopage présente malheureusement dans tous les pays et contre laquelle tous les pays qui souffrent de ce problème essaient de se battre et le font. Cette question se concentre exclusivement sur la Russie, alors que par principe, les problèmes des autres pays ne sont pas évoqués. Pourquoi seulement la Russie et pourquoi ne fait-on attention qu'à la Russie seulement ? C'est une question à laquelle nous avons été forcés de répondre tout au long de ces années. Il s'agit de toute évidence d'une politisation de cette question pour tout simplement mettre la Russie à l'écart.
Le pouvoir, on le voit, politise la question du dopage et se pose en victime, une position qui a un certain écho auprès de l'homme de la rue. Un certain nombre de Russes interrogés sur la question estiment en effet que la Russie est victime d'un certain ostracisme au plan international et que le sport n'y fait pas exception. Mais dans leur grande majorité, ils prennent la défense des athlètes qu'ils estiment victimes d'un jeu de pouvoir qui les dépasse et qui réduit surtout à néant tous les efforts qu'ils ont déployés pour atteindre le haut niveau.
Alors on le voit, Jean-Didier, il n'y a pas de stratégie commune entre les responsables sportifs et politiques. Dans ces conditions, la question qui se pose, c'est la suivante. La Russie a-t-elle une chance de convaincre l'Agence mondiale antidopage de sa bonne foi et donc évidemment d'éviter l'exclusion de ses athlètes des compétitions internationales ?
Eh bien, détrompez-vous, hein, ces dissonances pourraient bien être... Pardon, je reprends... Eh bien, détrompez-vous, hein, ces dissonances pourraient bien être une stratégie à part entière. Si l'exclusion de la Russie est confirmée le 9 décembre, eh bien, cette dernière pourra faire recours de cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Or, la juridiction de ce tribunal ne peut concerner que la Roussada et non pas l'État russe. Yuri Ganous, le directeur de l'Agence russe contre le dopage, a donc tout intérêt à expliquer qu'après les réformes mises en place depuis son arrivée, la Roussada n'a rien à voir avec les incohérences constatées dans les données transmises à l'Agence mondiale antidopage. Et c'est ce qu'il fait en critiquant ouvertement les autorités. Et si au terme du recours, eh bien, la Roussada devait être blanchie, alors la Russie ne pourra pas être suspendue.
Merci Jean-Didier, le sac de nœuds est un peu démêlé grâce à vous. Bonne soirée, bonne nuit même à Moscou. Nous voici déjà dans le temps additionnel de Mondial Sport. Quelques secondes simplement pour vous dire merci. Merci d'être fidèle au poste. Merci aussi à Joé Fonferrier aux manettes de l'émission ce soir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour parler sport pendant une grosse demi-heure. Ciao.